Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Mars, 2008. À vous tous dans le monde entier, je vous transmets de tout cœur mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la parole d'Ésaïe 14, 26 et 27. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera, sa main est étendue, qui la détournera. Le Seigneur Dieu a un plan qu'il va indubitablement exécuter et manifester à toutes les nations, à Israël et dans l'Église. En rassemblant les rapports, tirés des informations parues dans la presse depuis le début du mois de janvier 2008, il en ressort que le monde politique se focalise de plus en plus sur le Proche-Orient. La ville de Jérusalem est particulièrement devenue le point central des discussions et des négociations. George W. Bush souhaiterait finir son mandat présidentiel en ayant remporté, au moins, un succès, celui d'un accord de paix entre l'État juif et un nouvel État palestinien. La question est de savoir si cet objectif peut être atteint durant le laps de temps qui lui reste jusqu'à la fin de son mandat. Le 11 janvier, pendant sa tournée au Proche-Orient, il s'est entretenu avec Tony Blair, qui est récemment devenu l'envoyé spécial du Quartet international pour le Proche-Orient. Le 21 décembre 2007, Tony Blair s'est converti officiellement au catholicisme, s'assurant de cette manière le soutien de la puissance mondiale. Il a expressément choisi la date du 21 décembre 2007, jour même où sont tombées les dernières frontières entre les pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Le dernier empire mondial, tel que décrit et prédit par le prophète Daniel, atteint définitivement sa forme finale. Daniel 2, 40 et 7, 43. Le traité de Rome, du 25 mars 1957, signé par 6 pays fondateurs, constitue le socle de l'Europe unie. Chacun des 27 pays qui sont actuellement membres de l'Union européenne a dû signer le statut romain. Même la Cour internationale, la plus haute cour de justice existant sur la Terre, a comme base le texte de loi romain de la Cour pénale internationale. Juste après les 128 paragraphes, on peut lire à la fin, fait à Rome, ce 17e jour de juillet de l'an 1998. Le 18 février 2008 via Internet, la Radio Vatican a annoncé la visite du pape Benoît XVI aux États-Unis. Et celle-ci aura lieu du 15 au 21 avril. Dans l'agenda, des discussions sur les efforts de paix au Proche-Orient sont prévues avec le président George W. Bush. Le Vatican a l'intention de placer Jérusalem sous un statut international. La zone d'exterritorialité devra inclure le mont du Temple, appelé aussi mont Morija, jusqu'à la montagne de Sion. Il s'agit de deux choses qui en fait vont ensemble. L'une est un accord qui consiste à partager le pays, tel que cela est prédit dans l'écriture prophétique, et qui conduira au jugement. Là, j'entrerai en jugement avec elle, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Joël 3, 2. L'autre est un contrat sur le statut de Jérusalem. Cette année, Israël célèbre son 60e anniversaire depuis sa création en tant qu'État en 1948. L'accord de paix est sur le point d'être conclu, et il inclura les trois religions mondiales que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam, ainsi que leurs lieux saints. La Bible parle d'une alliance, et il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Daniel 9, 27. Le mont du Temple est considéré comme un lieu saint, non seulement par les Juifs, qui le revendiquent par le droit qu'ils ont reçu de Dieu, car le troisième temple devra, une fois encore, être rebâti sur son fondement original, mais il est aussi considéré comme un lieu saint dans la religion musulmane, tout comme la Mecque et Médine. En effet, il s'agira d'un traité de paix religieux. C'est alors que l'écriture de 1 Thessaloniciens 5, 3 s'accomplira. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Cette fois-ci, nous ne pouvons aller en détail sur ce sujet. J'écris avec l'impression que la dernière phase pour Israël a commencé, et par conséquent, l'Église entre dans sa phase finale. Avec tout ce qui se passe maintenant, tous ceux qui connaissent les Écritures prophétiques peuvent entendre les sons d'alarme du temps de la fin. Qu'il soit encore dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le temps de l'Église va certainement vers sa fin, et Dieu se tournera vers Israël selon son plan du salut. Actes 15, 16, Romains 11, 25. L'Église épouse pourrait voir l'accomplissement de la première phase, mais pas la concrétisation de l'alliance décrite dans Daniel 9, 27, car elle sera déjà enlevée avant que cela ne se réalise. Frère Branham a dit le 18 mars 1963, et après que l'Église ait été enlevée, Rome et les Juifs concluent une alliance. Nous pouvons demander. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La réponse suit. Le matin vient. Ésaïe 21, 11 et 12. Le cri retentit encore plus fort. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Le compte à rebours est enclenché. Il est important que nous reconnaissions le plan du salut de Dieu, et que nous prenions la place que Dieu nous a réservée dans ce plan. De toute éternité, Actes 15, 18, avant le commencement du temps, et bien avant la fondation du monde, Dieu avait conçu un plan pour l'humanité, et un plan de salut pour son Église. Le Rédempteur fut prédestiné avant la fondation du monde. Jean 17, 24. 1 Pierre 1, 20. Les élus ont été également prédestinés avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Apocalypse 13, 8. Jésus enseigna des choses qui furent cachées depuis la création du monde. Matthieu 13, 35. Ce plan s'échelonne dans le cours du temps, dès les premiers instants, et jusqu'au dernier, lorsque le temps débouchera dans l'éternité. Dans l'écriture d'introduction, le sujet est le plan de Dieu. Et la question principale est, qui s'y opposera? Depuis le commencement, l'ennemi a essayé de s'opposer à ce plan. Cela commença par sa rébellion au ciel, et jusqu'à ce jour, cela a continué sur la terre. Tout est écrit dans la Bible, du premier au dernier chapitre, même les récits sur la chute de Lucifer, et la chute dans le jardin d'Éden, même si cela nous est relaté en parabole et en images figurées. Il n'y a qu'une de ces deux possibilités qui soit valable. Soit Dieu révèle lui-même son plan à ses messagers, ces apôtres et prophètes qui sont appelés d'une manière divine, et qui doivent proclamer son dessein. Soit les théologiens et les scribes apportent leurs nombreuses interprétations. Il y a toujours une seule réponse correcte, mais plusieurs interprétations. Nous nous intéressons exclusivement à la seule réponse correcte, qui est confirmée dans la parole de Dieu. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7. En la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens 3, 4 et 5. Le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Apocalypse 10, 7. La grande tragédie commença au ciel, suite à la tentative menée afin de s'opposer au plan de Dieu. Au ciel, Satan s'adonna à sa propre volonté, et la plaça au-dessus de la volonté de Dieu. L'astre brillant, l'ange de lumière, le chérubin et protecteur, le fils de l'aurore s'exalta lui-même, et désira établir son propre trône à côté de celui du Tout-Puissant. Il voulut être égal au Très-Haut. Depuis le commencement, son but a toujours été de s'opposer au plan de Dieu. Nous lisons la chute de Satan au chapitre 14 du prophète Ésaïe, versets 12 à 21. Ensuite, nous lisons l'objectif de Dieu du verset 26 à 27, tel que repris dans l'écriture d'introduction. Même si cela semble codé, la chute de Lucifer est également décrite dans Ézéchiel 28, 11 à 25. Toutefois, la description ne peut être entièrement claire que lorsqu'elle nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Il fut créé par Dieu, il marchait au milieu des pierres précieuses et étincelantes, il était le sceau de la perfection, et il était même en Éden, le jardin de Dieu. Depuis le commencement, il avait accès au ciel et au paradis. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, 15. Ce qui se passa dans le paradis est à la fois relaté dans des détails clairs et mystérieusement cryptés. Dans le paradis, Satan, le chérubin déchu, en forme d'esprit, prit possession de l'animal appelé serpent, et l'utilisa pour séduire Ève. Ainsi, put-il s'introduire subrepticement dans la race humaine par la séduction, entraînant toute l'humanité dans la chute, la séparation d'avec Dieu. Avant cela, il n'y avait aucune trace de péché, de maladie ou de souffrance. Nul n'avait éprouvé jusqu'alors une quelconque forme de douleur, ou même entendu parler de décès. Depuis la chute, chaque être humain est conçu de la manière dont eut lieu le péché originel. David s'écria même, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, 7. Le Seigneur Dieu a créé les anges, et les êtres humains avec un libre arbitre, comme Adam qui écouta Ève, qui elle-même avait auparavant écouté le serpent. Ève eut l'option de choisir la voie à suivre. La même chose s'applique à nous tous. Satan, le séducteur, le serpent ancien, est à l'origine du premier mensonge dans le jardin d'Éden, et de tous ceux qui ont suivi, sans tenir compte par qui ils sont apportés, qu'il s'agisse de mensonges d'ordre spirituel, ou du domaine naturel. Manifestement, l'ennemi maintient son pouvoir sur la terre. Il est le séducteur de toute la terre. Apocalypse 12, 9. Il est devenu le prince, et le dieu de ce monde de ténèbres, jusqu'au moment où l'écriture suivante s'accomplira. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15. La mort s'est introduite dans toute l'humanité à cause de la décision que prirent les premiers humains sous l'influence du malin. Par Jésus-Christ, le second Adam, la vie éternelle est de nouveau accessible aux hommes. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 21 et 22. Dieu qui est esprit entra dans l'humanité par Jésus-Christ, son seul Fils engendré. C'était le seul moyen pour nous racheter et nous faire sortir de la chute. Seulement ceux qui ont reçu la vie éternelle, par une expérience personnelle du salut, pourront vivre éternellement. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11 et 12. Même après la chute, Satan, étant un être spirituel, continua d'avoir accès au ciel, et de se présenter au milieu des autres anges. Dans Job 1, 6, nous lisons, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur parla avec lui et le sujet était son serviteur Job. » Nous lisons un récit similaire au chapitre 2. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Non pas une fois, mais à deux reprises, l'ennemi de Dieu fut présent avec les anges, les fils de Dieu qui étaient rassemblés au ciel. Dans le cours du Nouveau Testament, l'ennemi, l'accusateur des frères, continue d'avoir accès au ciel. Cependant au ciel, notre Rédempteur est présent en tant que médiateur de la Nouvelle Alliance. Hébreux 8, 6. Et il intercède pour nous en tant qu'avocat. 1 Jean 2, 1. Bien qu'il ait vaincu Satan, et qu'il l'ait vu être jeté dehors. Jean 12, 31. Ce dernier sera définitivement chassé du ciel, lorsque les vainqueurs seront enlevés. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 7 à 12. Satan a entraîné avec lui les anges qui s'étaient soumis à son influence. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, et contre les princes de ce monde de ténèbres, qui ont été vaincus, mais qui ne veulent pas capituler. Nous devons donc continuer le combat avec l'aide de toutes les armes de Dieu jusqu'à ce que nous parvenions à notre destination finale. Éphésiens 6, 12 à 20. Quand est-ce que la victoire de Dieu sera manifestée dans son Église? Selon le psaume 110, tous les ennemis seront placés comme marchepieds du Rédempteur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Matthieu 22, 44, Marc 12, 36. Il est écrit dans Hébreux 2, 8, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, la victoire de Golgotha, la victoire du Seigneur crucifié et ressuscité, doit être manifestée dans les croyants sur toute la puissance de Satan. La scène de cette bataille sera l'Église, la femme devant qui se tient Satan, le grand dragon, car elle enfantera ceux qui seront enlevés. Apocalypse 12. Dans Romains 16, 20, l'apôtre Paul écrit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Le psaume 110 déclare que tous les ennemis sont placés comme marchepieds sous les pieds du Seigneur et Rédempteur. Après cela, il nous a dit que cela n'a pas encore été manifesté. Et nous lisons encore que le Dieu de paix, lui-même écrasera Satan sous nos pieds. Le jour même où la chute a eu lieu, le Seigneur Dieu avait dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15. L'inimitié ne peut exister qu'entre deux semences totalement différentes. Les élus ne peuvent persécuter les autres, car l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. L'achèvement de l'Église épouse se fera dans l'amour parfait de Dieu, lorsque le Seigneur couronnera son œuvre de rédemption par la victoire finale. L'écriture suivante s'applique à tous les véritables croyants, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Éphésiens 2, 11 à 16. Un enfant de Dieu, né de nouveau par la parole, et par le Saint-Esprit, devient une nouvelle créature, et il procure la paix. Les vertus de Jésus-Christ sont des réalités divines, et elles font partie de notre vie. Celui qui crée des dissensions, qui sème la haine et l'inimitié, est possédé, et est encore sous l'influence du malin. Nous faisons face aux questions suivantes. Y a-t-il un trop tard? Y a-t-il des décisions qui sont définitives? Quelques-uns peuvent-ils encore changer d'opinion, et être renouvelés? Avons-nous une influence sur ce qui arrive dans la volonté parfaite de Dieu, ou dans sa volonté permissive? Ou même pour que cela n'arrive pas du tout? Décidons-nous nous-mêmes, ou savons-nous si nous sommes parmi les appelés, ou les élus, les vierges folles, ou les vierges sages? Cela se manifestera-t-il maintenant ou plus tôt, lors de la première ou de la seconde résurrection? La décision de Lucifer fut définitive, c'est pourquoi Dieu ne lui proposa même pas la grâce. C'est ainsi qu'il ne connaît ni la grâce, ni le pardon, ni la réconciliation, et la même chose s'applique à tous ceux qui sont sous son influence. La fin tragique de l'adversaire fut résolue depuis le commencement, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, 10. La destination de ceux qui, ici, sur terre, s'opposent à Dieu est également définitive. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11 à 15. Cela arrivera lors du jugement dernier. Il n'y aura pas de cour d'appel. Le Seigneur devra dire et réserver la même destination finale à tous ceux qui ont des dons spirituels, mais qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21 à 23. Quel drame ça sera pour ceux à qui le Seigneur dira, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Nous devons prendre au sérieux la grâce, le pardon et la réconciliation que Dieu nous offre, travailler avec crainte et tremblement pour notre salut, et examiner si nous sommes ou agissons dans notre propre volonté ou dans la volonté de Dieu. La restauration promise. Nous lisons dans le livre de Job les terribles épreuves que le Seigneur avait permis à l'ennemi d'infliger à l'homme de Dieu. En allemand, il y a un terme familier connu sous les nouvelles de Job qui s'associe bien aux très mauvaises nouvelles que l'on pourrait recevoir. L'ennemi avait tout détruit, au point que l'homme de Dieu se retrouva assis sur la cendre. Sa famille et tout ce qui était autour de lui furent décimés. Sa propre femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu, et meurs. » On a du mal à comprendre qu'un tel homme, qui craignait Dieu, ait dû passer par des épreuves aussi terribles. C'est alors que l'on pense à notre Rédempteur quand, après son baptême, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descendit et vint sur lui. Puis, il fut emmené dans le désert pour subir toutes les tentations que Satan lui présenta. Matthieu 4, 1 à 11. Luc 4, 1 à 13. Il supporta l'ignominie et tous les reproches inimaginables sur cette terre. Ce récit était-il écrit rien que pour Job, et donc sans relation avec l'Église dans la dernière partie du plan du salut, si c'est le cas? Alors ces 42 chapitres dans la Bible ont été écrits en vain. Nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner et pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16 et 17. Comme aucun autre livre dans l'Ancien Testament, l'histoire de Job nous relate, La dernière phase de l'église, lorsque la pluie de la première et de l'arrière-saison tomberont simultanément. Joël 2, 23. Zacharie 10, 1. Cela se produira de manière courte, juste avant le retour de Christ. La déclaration dans Jacques 5, 7 à 11, est adressée directement à nous, qui vivons ce temps. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Maintenant, il s'agit de demeurer ferme, de ne pas regarder aux choses visibles, ni aux circonstances, mais d'agir comme Abraham, en ayant la pleine conviction que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Romains 4, 18 à 22. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, ni aux autres, encore moins prêter l'oreille aux calomnies. 2 Corinthiens 6, 8. Et suivre les faux prophètes. Au contraire, nous devons être enracinés dans la parole de la vérité, tout en persévérant jusqu'au jour du retour de Christ. Dans la deuxième partie de Jacques 5, 7, nous lisons. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Au verset 11, nous lisons cette déclaration, « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Job supporta patiemment le temps de l'épreuve. En dépit de toutes les accusations, il affirma, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et je verrai Dieu. » Job 19, 25 et 26. Il avait déjà vu le médiateur, l'intercesseur, et il parla de l'expiation. Il dit aussi que nous reviendrons au jour de notre jeunesse, et que Dieu rendra à l'homme son innocence. Job 33, 23 à 28. L'exemple de Job a une grande signification en rapport avec le plan du salut. Il nous montre ce que Dieu s'était proposé de faire déjà dès le commencement avec les siens et ce qu'il va bientôt accomplir. Même si le Seigneur permet que certaines choses arrivent, que Satan s'attaque au corps et détruise tout autour de nous, que les accusateurs et les calomniateurs s'érigent contre nous, l'âme d'un enfant de Dieu ne peut être touchée. À la fin, notre couronnement sera comme fut celui de Job. Dieu l'exauça et lui restitua toutes choses au double. La fin sera glorieuse. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. En tant que croyants bibliques, nous sommes convaincus que Dieu accomplira son plan du salut de manière merveilleuse. Autrefois, le Seigneur Jésus disait aux croyants, « Lorsque vous verrez Jérusalem, investie, par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Luc 21, 20 et 21. Que celui qui lit et qui écoute prenne garde. Ils agirent en conséquence dès qu'ils virent les armées s'approcher de la ville. Le célèbre historien de ce temps-là, Josephus Flavius, écrivit que tous ceux qui croyaient au Messie avaient quitté Jérusalem avant sa destruction en l'an 70. Notre Seigneur a aussi parlé des choses qui arriveraient à la fin. Il mentionna qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, et dans les étoiles, de l'angoisse parmi les nations, des tremblements de terre, et des famines en divers lieux. Concernant Israël, il dit, voyez le figuier. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21, Matthieu 24. Nous sommes la génération qui voit toutes ces choses s'accomplir. Maintenant, le Seigneur s'adresse aux vrais croyants, ceux qui croient et acceptent sa parole, et qui sont vigilants dans l'observation de l'accomplissement des prophéties bibliques. Lorsque vous entendrez parler des négociations sur Jérusalem, faites attention. C'est le temps où tous les vrais croyants sortent et fuient la religion de Babylone, et retourne au Seigneur, et à la parole de la promesse. Certainement, nous vivons dans une période très spéciale dans laquelle les prophéties bibliques du temps de la fin s'accomplissent devant nos yeux. Tout indique l'imminence du retour de Christ. Et personne, ni aucune circonstance, ne peut empêcher sa réalisation. Au ciel, Satan n'a pas pu faire échouer le plan de Dieu, il n'a pas pu l'empêcher dans le paradis. Satan n'a pas pu anéantir le plan de Dieu envers Israël, même lorsqu'il mit à mort les enfants des Hébreux. Moïse survécut, car il était destiné à être prophète. L'ennemi n'a pas atteint son but lorsque Myriam et Aaron se permirent de juger le serviteur de Dieu, en remettant en question qu'il fut le seul à qui Dieu parlait. Nombre 12. Il n'a pas pu ruiner le plan de Dieu envers Israël lorsque Corée et Dathan avec 250 hommes des principaux de l'assemblée se dressèrent contre Moïse causant la division dans l'assemblée d'Israël. Nombre 16. Oui, Moïse fut le seul à qui Dieu apparut dans le buisson ardent, et à qui Dieu ordonna de se présenter comme son prophète, en lui confiant un mandat spécial. En dépit de toutes les difficultés, il exécuta son mandat, et arriva avec le peuple de Dieu à la frontière de la terre promise. Deutéronome 34. Ensuite, Dieu continua son plan avec Josué. Satan n'a pas pu détruire le plan de Dieu lorsque Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans, et au-dessous, à cause de la naissance du Rédempteur. Satan n'a rien pu empêcher dans le plan de Dieu, même lorsque Judas trahit notre Seigneur. Dieu veille sur toutes choses et fait en sorte que son plan se réalise. Sa décision reste valable pour toujours. Ainsi dit le Seigneur, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sans l'ombre d'un doute, cela est véridique jusqu'au jour où elle apparaîtra en sa présence sans tache, ni ride dans la gloire. Éphésiens 5, 27. Même les faux docteurs qui se présentèrent déjà au temps des apôtres ne purent faire obstacle au plan du salut. De même les faux prophètes qui s'élèvent en ce temps de la fin ne pourront réussir à interrompre le plan de Dieu. L'apôtre Pierre écrivit, « Il y a eu, parmi le peuple, de faux prophètes. Et il y aura, de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. » 2 Pierre, 2, 1. Il a relevé le danger de manière très claire. Même après que l'apôtre Paul eut annoncé tout le conseil de Dieu, il s'éleva des hommes qui enseignèrent des doctrines pernicieuses afin d'entraîner les disciples après eux. Actes 20, 17 à 32. Aujourd'hui encore, il y a des croyants qui sont éloignés de l'Église, et à qui, on a empêché de suivre Christ. Car ils sont entraînés par des hommes qui enseignent des fausses doctrines. Dans le message à l'âge d'Éphèse, voici ce qu'il fut dit à l'ange. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Apocalypse 2, 2. Qu'importe ce que quelqu'un dit, si la proclamation de l'Évangile n'est pas en accord avec l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42. Alors, conformément au témoignage des saintes Écritures, il s'agit d'enseignements pernicieux. Dans le message à l'église de Pergame, le Seigneur fit une sérieuse récrimination. « Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Apocalypse 2, 14. Cela est manifeste que la doctrine de Balaam fut contraire à la doctrine des apôtres. Certains pourraient croire que cela n'était pas possible que l'ennemi ait pu, déjà au commencement, trouver une brèche dans l'Église primitive et s'introduire pour essayer d'empêcher la réalisation du plan du salut. Selon le témoignage des saintes Écritures, l'Église de Jésus-Christ est l'endroit sur la terre où Dieu révèle sa parole, c'est le corps de Christ, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. Aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, 21, Le mensonge n'est qu'une perversion de la vérité. Par exemple, un sujet peut être biblique, mais ce que les hommes en disent, ou écrivent, peut s'avérer antiscripturaire. C'est de cette manière que cela commença dans le jardin d'Éden. Satan reste dans le sujet, mais ne demeure pas dans la vérité. Dans le message à l'ange de l'église de Thyatire, nous lisons un autre grief. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Apocalypse 2, 20. Assurément, Dieu n'a établi dans son église que des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc., mais il n'a jamais établi des prophétesses, ou des femmes apôtres et doctoresses. Cependant, au temps même des apôtres, une femme se présenta elle-même en tant que prophétesse et doctoresse, séduisant les serviteurs de Dieu. Déjà dès le commencement, cela fut l'intention de l'ennemi de séduire le peuple de Dieu. Dieu, par le prophète Ézéchiel, nous montre l'insupportable désarroi que suscite le mauvais usage des dons spirituels, et son effet sur le peuple. Cela peut même entraîner la mort des âmes précieuses. Ainsi dit le Seigneur. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes? Ézéchiel 13, 17 et 18. Dans l'église de Thyatire, l'ennemi utilisa une femme qui avait le don de prophétie afin d'égarer les serviteurs de Dieu qui étaient impressionnés par son don. Ils furent séduits parce qu'ils n'avaient pas le don de discernement des esprits. Même ceux qui portaient des responsabilités dans l'Église la considéraient avec respect, sans se rendre compte qu'eux-mêmes, et par conséquent, l'Église avait perdu le respect envers la parole de Dieu. Le don de prophétie ne fait pas d'une femme une prophétesse, encore moins une doctoresse spirituelle. Les quatre filles de Philippe l'évangéliste avaient le don de prophétie. Acte 21. Mais elles n'étaient pas des prophétesses. Les prophètes établis par Dieu dans l'Église font partie des cinq ministères. Éphésiens 4, 11. Le don de prophétie est l'un des neuf dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12. Dans l'Ancien Testament, il est fait mention de la prophétesse Myriam. Exode 15. De la prophétesse Déborah. Juges 4. De la prophétesse Hulda. 2 Rois 22. D'une prophétesse qu'Ésaïe prit comme femme. Ésaïe 8, 3. Toutefois, aucune d'entre elles n'eut un ministère dans l'Église. La même chose avec la prophétesse Anne. Dans l'Évangile de Luc, 2, 36 à 38. Tout ce qui appartient au plan du salut fut révélé à ses serviteurs, les prophètes et apôtres. Éphésiens 3, 5, Apocalypse 10, 7, etc. Les ministères et les dons doivent être placés correctement dans l'ordre divin, et laissés à leur place. Satan s'interfère toujours là où l'Esprit de Dieu fait quelque chose de spécial dans l'Église. À chaque fois, il le fait avec les mêmes intentions, renverser l'ordre divin, remettre en question, étendre ce que Dieu a dit, apporter de la confusion, et discréditer les serviteurs de Dieu afin de perturber l'œuvre et le plan de Dieu. Néanmoins, le conseil de Dieu demeure pour toujours. L'Église de Jésus-Christ ne peut être vaincue par les puissances de l'enfer. L'épouse de l'agneau peut temporairement sortir du pas, comme frère Branham l'a vu dans la vision, mais elle ne peut pas être séduite. Elle sera ramenée au pas, et elle pourra ainsi être prête et sanctifiée pour prendre part au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19. Satan est particulièrement furieux contre la vraie Église, et contre Israël, car toutes deux ont une part spéciale dans le plan du salut. Le monde n'aurait jamais entendu parler des enfants massacrés dans l'ancienne Égypte, si Moïse n'avait pas été ordonné comme prophète sur Israël dès sa naissance. Il n'y aurait eu aucun enfant mis à mort à Bethléem, si le Fils de Dieu n'y était né. Regardons dans notre temps, Satan a laissé les grands évangélistes et les églises en paix. Il n'y eut qu'un seul homme qui dut passer par les plus grandes épreuves, même dans sa propre église. Prédication du 28 septembre 1959. Le baptême du Saint-Esprit et autres. Ce fut William Branham, qui fut choisi depuis sa naissance. Jérémie 1, 5. Et consacré à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. À l'âge de 7 ans, il entendit une voix lui parlant d'un tourbillon, venant de la cime d'un arbre. Ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille encore d'aucune manière. Car tu auras une tâche à accomplir quand tu seras grand. Il était un prophète promis avec un ministère directement lié au plan divin du salut pour le temps de la fin. Les attaques vinrent du clergé, des différentes dénominations, parce qu'il était un homme envoyé de Dieu, prêchant les véritables doctrines bibliques, que le clergé ne pouvait pas ajuster à leur représentation intellectuelle de la parole de Dieu. Cependant, l'attaque la plus virulente vint de la part de quelqu'un qui était proche de lui au commencement de son ministère. Il l'accusa auprès du service des recettes fiscales. Apparemment, frère Branham ne connaissait pas les rouages de ces choses du monde, aussi bien qu'il connaissait les choses spirituelles dans le royaume de Dieu. Dans ces réunions, les gens mettaient en offrande des chèques dont il était le bénéficiaire. Il les signait et ces chèques servaient à payer les dépenses de ces réunions. Ensuite, toute une boîte de chèques lui fut présentée, et il fut accusé d'avoir utilisé cet argent pour son usage personnel sans payer l'impôt sur le revenu. Le montant en question était d'un demi-million de dollars. Le service des recettes fiscales réclamait plus de 300 000 dollars d'impôts dus. Son passeport fut confisqué, et il lui fut interdit de quitter le pays. L'enquête dura 5 années. Il m'en avait parlé, et m'avait exprimé son regret, parce qu'il ne pouvait pas répondre à mon invitation pour des réunions en Allemagne, avec David Duplessis. Le voyage qu'il avait planifié à Sydney, en Australie, en 1959, devait également être annulé, car il ne pouvait pas quitter les États-Unis. Plus tard, il me fit confidence du nom du frère qui avait payé pour lui la somme de 40 000 dollars, le montant négocié par l'avocat, et le service des recettes fiscales. Le 28 novembre 1963, frère Branham, en parlant de certaines choses, mentionna le contentieux du fisc. Il dit, « Pendant 5 ans, je me suis demandé ce qui n'allait pas. Je sentais dans mon cœur, comme si j'étais écrasé par quelque chose, et je ne pouvais décrire ce que c'était. Pendant le temps de cette grande pression, le gouvernement menait une enquête sur moi. Je devais au gouvernement 300 000 dollars. Ils m'ont interdit de quitter le pays, et je devais rester ici. Je me sentais comme écrasé pendant ces 4 ou 5 dernières années. Si le plus grand homme de Dieu dans notre temps n'avait pas eu à exécuter le mandat le plus important, en relation avec le plan du salut, Malachie 4, 5 et 6, Matthieu 17, 11, Marc 9, 12, alors Satan l'aurait laissé tranquille. Il ajouta encore, « Je ressentais ce terrible fardeau. J'ai pleuré. J'ai prié. J'ai confessé. Que dois-je faire? Qu'avais-je fait ?» Le prophète Jérémie dut également expérimenter que son propre peuple le diffamait et voulait l'accuser. Voici ce qui est écrit, « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, Observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Jérémie 20, 7 à 13. Cela peut arriver à chaque serviteur de Dieu. La jalousie pousse les gens à la persécution religieuse, comme avec Caïn qui était le fils du malin. 1 Jean 3, 12. En rapport avec cela, notre Seigneur avait prédit ce qui arriverait. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean 16, 2. Nous pouvons mentionner toutes ces choses dont nous parlent les Écritures, mais c'est seulement lorsque nous les expérimentons nous-mêmes qu'on peut réellement se rendre compte des effets qu'elles produisent. Nous pouvons parler de la chute de Lucifer, de ceux qui l'ont suivi et qui ont été entraînés avec lui. Nous pouvons parler d'Ève et de la manière dont elle fut séduite, d'Adam qui fut désobéissant et entraîné dans la chute. Nous pouvons encore parler de ce qui arriva au temps des apôtres, dans les églises, et nous référer particulièrement aux sept messages aux églises. Mais la chose principale n'est pas le passé qui est loin derrière nous. Notre préoccupation aujourd'hui est ce que Dieu est en train de faire, et aussi la manière dont Satan s'infiltre subtilement pour perturber le plan de Dieu dans cette dernière phase. Plusieurs se souviennent encore des grandes et puissantes bénédictions survenues au cours des années 60, et encore dans les années 70. Après que frère Branham fut repris dans la gloire, à partir de cet endroit, le message du temps de la fin est allé avec triomphe dans le monde entier comme Dieu l'avait déterminé depuis l'éternité. L'assemblée locale grandit spirituellement et en nombre. Les bénédictions de Dieu étaient ressenties et expérimentées dans chaque réunion. Pendant ce laps de temps, le Seigneur nous a souvent parlé et révélé les mystères de sa parole, comme il les avait révélés à son serviteur et prophète. Les gens venaient de partout pour entendre le message dans sa pureté, la vraie parole afin d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur ressuscité. Cela fut presque paradisiaque. Bien entendu, cet état de choses ne pouvait pas du tout plaire à l'ennemi. Alors vers la fin des années 70, il lança une attaque destructrice contre l'œuvre et l'église locale, essayant de briser l'harmonie. Comme frère Branham l'avait souvent répété, avec Ève, il avait suffi de modifier une seule parole dans Genèse au chapitre 3 pour entraîner toute l'humanité dans la chute. En cet endroit, Satan essaya d'anéantir l'œuvre de Dieu par un coup fatal, en utilisant la bouche de ceux qui s'étaient séparés de l'église locale, en tordant et pervertissant une écriture après l'autre, une citation après l'autre. Le but poursuivi fut de discréditer et détruire le serviteur que Dieu avait ordonné pour porter sa parole. Des accusations inconcevables furent inventées, jusqu'au point de le traiter d'antéchrist, de sodomite et de séducteur de l'épouse. Comme c'est typique, dans ce genre de conspiration, les accusations sont orchestrées et répandues derrière le dos. L'apôtre Paul a clairement décrit les actions de ces personnes. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains 3, 13 à 18. Pour atteindre son objectif, Satan s'en prit au mariage, en donnant une fausse interprétation de 1 Corinthiens 7. Comme si cela allait de soi qu'une femme qui a quitté l'église puisse soudainement dire à son mari, « J'ai le droit de me séparer de toi, pourvu que je reste seule. » C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 7. Cela fut le mensonge satanique, directement liée à une destruction préméditée. Cependant, cela n'est pas du tout écrit de cette manière. Avant le verset 11, il y a le verset 10 où nous lisons. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, mais le Seigneur. Cette déclaration n'est-elle pas suffisamment claire? N'est-elle pas en accord avec les autres Écritures qui traitent du même sujet? Ne s'accorde-t-elle pas en tout point avec ce que frère Branham enseigna d'après l'ordre du Seigneur, particulièrement dans la prédication mariage et divorce? Ce qui est écrit au verset 11 n'est que dans le cas où cela serait déjà arrivé. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et non pour qu'à n'importe quel moment, elle décide de se séparer de son mari, ou d'introduire une demande de divorce. Non, ce n'est que dans le cas où cela s'était déjà produit, alors elle doit demeurer seule, ou se réconcilier avec son mari. Aucune des autres écritures appartenant au même sujet ne furent prises en considération. Satan utilisa exclusivement une écriture, en troquant les mots « séparation » et « divorce ». Tous ceux qui veulent prendre part à l'enlèvement doivent sortir de cette séduction satanique dans laquelle ils ont été entraînés, qu'ils aient été influencés par des on-dits ou par un quelconque écrit. Ils doivent être délivrés de cet envoûtement. C'est alors que l'ordre divin dans l'Église, dans la famille et dans le mariage, pourra être restauré en commençant par 1 Corinthiens 11, 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Comme avec le peuple d'Israël, ceux qui avaient été mordus par les serpents brûlants et venimeux, devaient regarder au serpent d'airain pour être guéris. De la même manière, tous ceux qui ont été empoisonnés du venin mortel du serpent, doivent maintenant regarder dans la foi à Christ le Rédempteur, car il est celui qui a écrasé la tête du serpent. Ce n'est qu'en regardant dans la foi au Sauveur crucifié qu'ils pourront être guéris de ce poison spirituel et mortel. Jean 3, 14 à 17. De prime abord, tout semblait avoir pris fin ici au centre missionnaire. Nous venions, à peine, d'achever les deux bâtiments, tels que le Seigneur nous l'avait ordonné le 18 juillet 1978, lorsque tout l'enfer se déchaîna contre nous. Cependant, Dieu ne permit pas à Satan de contrer son plan, mais il nous bénit avec un nouveau commencement. Il continua son œuvre selon sa volonté. Depuis ce moment, des millions de gens dans le monde entier ont pu entendre la véritable parole. Un nombre incommensurable d'âmes furent sauvées, et plusieurs sortirent de la confusion spirituelle. La préparation de l'Église épouse se poursuivit, et ce en accord avec la parole révélée. Quelques années plus tard, Satan entreprit une seconde attaque. Le 25 août 1987, quelqu'un m'accusa auprès du Bureau des contributions d'impôts d'une supposée fraude fiscale. Ce ne fut qu'après la conclusion de la procédure d'investigation que j'appris que c'était quelqu'un de très proche. Naturellement, les fonctionnaires des contributions ne pouvaient que croire à de telles accusations, car elles émanaient des membres de la famille. À mon insu, il y eut aussi 6 hommes qui furent cités comme témoins, des frères qui auparavant faisaient partie de l'assemblée locale. Sur la base de ce qui fut officiellement transcrit le lundi 31 octobre 1989, jour de la réunification de l'Allemagne, avant 8 heures du matin, 6 hommes dont des agents de fisc et des policiers de la ville de Düsseldorf pénétrèrent dans le centre missionnaire. Ils passèrent au peigne fin toutes les chambres et les bureaux, ils confisquèrent tous les documents et les embarquèrent dans des cartons. Je fus inculpé de 19 chefs d'accusation. Par conséquent, le statut d'association sans but lucratif du centre missionnaire fut retiré. Ils réclamèrent la somme de 340 000 Deutschmark pour l'impôt des sociétés, et 220 000 Deutschmark pour la taxe foncière. On n'aurait pas pu honorer de tels montants. D'un point de vue humain, cela semblait une fois de plus être la fin de l'Église locale et de l'œuvre missionnaire. Sans aucun doute, ce fut le Seigneur lui-même qui fit que le directeur local du service d'impôt de Krefeld put parler en ma faveur, afin que je ne sois pas mis en prison, comme cela fut initialement exigé. Gloire soit rendue à Dieu, car durant toutes les années d'enquête, je n'ai pas eu à annuler un seul voyage missionnaire, et j'ai pu continuer à exécuter mon mandat en toute fidélité devant le Seigneur. Au grand étonnement des enquêteurs, des avocats, et de la Cour de justice, après plusieurs années de mise en examen, on ne trouva pas une seule irrégularité, que cela soit sur le plan privé, ou sur les transactions du centre missionnaire. En décembre 1999, la Haute Cour de justice de Düsseldorf prononça en ma présence le verdict. Non coupable, acquitté. Nul ne peut imaginer par où je suis passé durant toutes ces années d'enquête. J'ai dû à maintes reprises faire face à des accusations, à des avocats, et aux agents du fisc. Le plus grand journal local rédigea un rapport sur la victoire du non-lieu avec comme titre « Les accusations portées à l'encontre du centre missionnaire sont rejetées ». Le texte sous la photo dit « Le pasteur Ewald Frank se réjouit de la victoire obtenue auprès de la Cour de justice. La Freie Volksmission, mission populaire libre, a retrouvé son statut d'association sans but lucratif. Les autorités judiciaires lui ont restitué tous les documents qui étaient confisqués. Mais à la fin, nous avons pu de nouveau expérimenter la manifestation de la victoire du Seigneur. Dieu ne fut pas seulement avec son serviteur et prophète William Branham pendant les 5 années où il fut mis en examen, il fut aussi avec moi pendant les pires épreuves, tout au long de ces nombreuses années. Satan essaya de toutes ses forces de détruire la confiance à l'égard du porteur de la parole, afin de faire obstacle à la distribution du pur message du temps de la fin. Il ne pouvait pas réussir, car le « ainsi dit le Seigneur du 11 juin 1933 » est encore vrai et valable aujourd'hui. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ce message est celui que je continue à porter, par l'autorité de l'appel et du mandat divin, et ce, depuis que frère Branham fut repris dans la gloire. Après une conversation avec la personne qui m'accusa faussement, à laquelle le révérend Peregrine prit part, cette personne reversa au centre missionnaire une partie des frais de justice, en transférant 30 000 euros. Jusqu'à ce jour, il n'y a même pas eu un sentiment de culpabilité, ou de remords. Cela est-il trop tard? N'est-il plus possible de faire marche arrière? L'offre de grâce de Dieu continuera-t-elle à être rejetée? Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, n'est-il plus valable dans le Nouveau Testament, particulièrement la déclaration « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère » Deutéronome 27-16, Marc 7-10. Est-ce que le caractère assassin et meurtrier des âmes continuera même en vue de l'imminent retour de Christ? L'inimitié continuera-t-elle jusqu'à la fin? Comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? Aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement, et à jeûner, afin que Dieu puisse mettre un stop à toutes les attaques de l'ennemi, et qu'il achève son œuvre de grâce d'une manière merveilleuse. Je ne me plains pas et je n'accuse pas. Je me réjouis simplement du fait qu'aucune des accusations personnelles ne s'est avérée être vraie. Matthieu 5, 10 à 12. Si seulement une seule d'entre elles était vraie, alors le Seigneur aurait commis sa première erreur lorsqu'il m'a mandaté. Dieu connaît toutes choses, et chacun doit maintenant décider s'il doit croire les paroles de Dieu ou celles des calomniateurs. L'apôtre Paul consacra tout un chapitre, en l'occurrence 2 Corinthiens 11, pour raconter toutes les épreuves par lesquelles il devait passer, comme il le fit auparavant au chapitre 6. Aujourd'hui encore, je peux dire, comme il le fit en son temps, c'est le Seigneur qui m'a assisté, et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. 2 Timothée 4, 17. Dans l'Église primitive, les apôtres et les anciens portaient la responsabilité pour tout ce qui était en rapport avec les décisions doctrinales. Acte 15. Etc. Car Dieu a placé les différents ministères seulement dans l'Église, en vue de l'édification de la congrégation. En plus de cela, il y eut toujours une seule assemblée locale dans chacune des différentes villes. Les divisions sont toujours l'œuvre de l'ennemi. En vue du retour imminent de Jésus-Christ, il doit être dit qu'au commencement, les croyants étaient tous unis parce qu'ils étaient sous la conduite directe du Saint-Esprit. En ce temps-là, il n'y avait aucune division, aucun faux frère, et aucune fausse doctrine. Maintenant, nous expérimentons le fait que nous sommes ramenés au commencement. C'est pourquoi toutes les divisions qui sont le résultat des enseignements faux et étrangers doivent immédiatement cesser, et seules les pures doctrines de la Bible doivent être prêchées. L'unité dans l'assemblée locale est très importante. Notre Seigneur dit, tout royaume, certainement aussi une assemblée, divisée contre lui-même est dévastée, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, 25 à 30. Pendant le temps de crise, frère Branham demanda à la congrégation du tabernacle de faire l'engagement suivant, « Je promets solennellement de soutenir le Branham Tabernacle. Je promets de ne pas tenir des propos contre frère Branham, ou un de ses programmes, et je réprimanderai quiconque agirait ainsi. Je me tiendrai à ses côtés dans le vrai ou dans le faux, comme il se tient pour Dieu. Amen. » Ainsi dit le Seigneur, en parlant aux siens, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. » Ésaïe 49, 16 et 18. Où est notre place dans la parole de Dieu? L'apôtre Paul mentionna plusieurs frères, parmi lesquels Phygèle et Hermogène, qui se retirèrent de lui en Asie. 2 Timothée 1, 15. Il mentionna Hyménée et Philète, qui tenaient des vains discours, et il ajouta que leur parole rongera comme le cancer, car ils disaient que la résurrection avait déjà eu lieu. 2 Timothée 2, 17. Il ne s'agissait plus de la prédication de la parole, mais de discours qui ne servaient strictement à rien, des gens qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. 2 Timothée 2, 18. Paul compara de tels hommes à Jannès et Jambrès. 2 Timothée 3, 8. De tels hommes ne sont ni apôtres, ni prophètes, ni docteurs. Le Seigneur ne parle qu'à ceux qui sont dans son Église. Chaque véritable message est toujours adressé à l'Église qui a été rachetée par le sang de l'agneau. Apocalypse 2 et 3. Et qui est gardée sous la protection du sang. Celui qui se sépare de l'Église n'est plus sous la protection du sang. Alors, ils forment des groupes qui marchent dans leur propre voie, Exactement comme font les dénominations qui n'écoutent plus ce que l'Esprit dit aux églises. En réalité, chaque groupe qui se crée à la suite d'une rébellion, ou d'une division dans l'Église de Jésus-Christ, n'est qu'une association religieuse. Les Saintes Écritures appellent de telles personnes des contempteurs. L'Assemblée d'Israël resta avec Moïse. Ceux qui se rassemblèrent contre lui, se joignirent à Corée, Dathan et Abiram. C'est la voix de Caïn, l'égarement, et le salaire de Balaam. Jude verset 11. Ils ont quitté le droit chemin. 2 Pierre 2, 15. Ces hommes méprisèrent le Seigneur. Nombre 16, 30. Ils rejetèrent le mandat de Moïse d'où ils méprisèrent Dieu qui l'avait appelé. L'écriture suivante s'applique dans un tel cas. Voyez, contempteurs, soyez étonnés, et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Acte 13, 41. Qu'en est-il de tous les accusateurs, des contempteurs, et des calomniateurs qui volontairement servent l'ennemi, et se retrouvent ainsi sous la malédiction, lequel d'entre eux utilisera sagement ces derniers instants du temps de la grâce, afin d'être libéré de l'envoûtement de Satan? Qui demandera pardon, et expérimentera la réconciliation? Leur décision fut-elle définitive? Qui a franchi définitivement la ligne rouge comme Judas? Toute personne ayant été entraînée dans la séduction causée par Satan, comme cela arriva au ciel, et dans le jardin d'Éden, ne devrait plus persister à endurcir son cœur. Plusieurs âmes précieuses sont emprisonnées, et sont en proie à la séduction sous le couvert de la religion, à cause de la supercherie spirituelle, et leurs conséquences sont répandues dans le monde entier. Qu'en est-il des instigateurs, et qu'en est-il de ceux qui se joignirent à eux, et devinrent ainsi coupables, qui trouvera le chemin de la repentance? Seulement ceux qui n'ont pas pris délibérément position, et qui ne se sont pas rendus volontairement coupables, pour toujours du péché contre le sang et le corps de Christ. Et ils devraient laisser de côté leur orgueil, et revenir au Seigneur. Toutes les interprétations au sein du message, doivent également cesser immédiatement. En réalité, il ne suffit pas que les frères mentionnent le prophète, ils doivent soutenir ce qu'ils disent avec la parole de Dieu. Tous ceux qui ont été déçus par ce qu'ils écoutaient et regardaient aux hommes, devraient dès maintenant regarder au Seigneur, et lui faire confiance, afin de ne plus se laisser à nouveau décourager. Le bon berger appelle toutes les brebis errantes et perdues. Puissent-elles entendre sa voix et revenir à lui. Ajoutez à cela, tous les frères dans le ministère qui se sont retrouvés sous une mauvaise influence, devraient se libérer du piège de l'ennemi. 2 Timothée 2, 15. La vraie unité dans toute l'Église aura lieu seulement lorsque l'unité, parmi ceux qui prêchent la parole sera évidente. Satan a été vaincu, il a perdu pour toujours tout droit et toute prétention sur les rachetés. Lui et toutes les forces qui le suivent seront placées comme marchepied du vainqueur de Golgotha, et cette victoire sera manifestée dans l'Église de Jésus-Christ. À la fin, il sera manifeste que cela aura valu la peine pour les élus qui ne se seront pas laissés séduire, qui n'auront pas pris part au caractère assassin et calomniateur, car ils trouveront grâce devant Dieu, et prendront la place que Dieu leur a réservée dans l'Église des premiers-nés. Avec foi, je continue à m'en tenir à la parole écrite dans le livre du prophète Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En accord avec ma responsabilité devant Dieu, je continuerai à porter l'Évangile éternel jusqu'au moment où je serai enlevé dans la gloire avec tous les justes arrivés à la perfection. C'est ainsi que je l'ai vu en janvier 1981. Reconnaissant qu'il nous reste un temps très court, je me sens obligé d'admonester chacun au nom de Jésus-Christ. Satan peut causer des troubles, c'est ce qu'il a fait depuis le commencement, mais il ne peut pas s'opposer au plan de Dieu pour l'Église épouse. Après le départ de frère Branham, je fus le premier qui apporta le message divin dans chaque continent de la terre, conformément au mandat du Dieu de vérité qui ne ment jamais. Jusqu'en 1979, j'avais visité 89 pays, et à ce jour ce nombre est passé à 136, et Dieu a accordé beaucoup de fruits. Que toute la gloire lui revienne. Dans les années 70, le nombre de participants aux réunions ici au centre missionnaire était de 400 à 500. Maintenant, il varie entre 700 et 900. Dans les années 70, c'était principalement des personnes de langue allemande qui prenaient part aux réunions, mais à ce jour, elles viennent de toute l'Europe et du monde entier. En ce temps-là, les réunions n'étaient qu'en allemand. Aujourd'hui, elles sont simultanément traduites en 12 langues, dont 7 sont retransmises en direct sur Internet dans le monde entier. Je n'écris pas de mon propre chef, j'écris de la part de Dieu, sur base d'un mandat divin. Mon intérêt n'est pas de me défendre moi-même, mais de défendre la parole de Dieu, et le message du temps de la fin, qui est véritable et clair comme du cristal. Toutes ces choses ne sont pas arrivées parce que je m'appelle Ewald Frank, mais parce que j'ai reçu un appel direct comme Moïse et Josué, comme Élie et Élisée, comme Pierre et Paul, et comme William Branham. Le 3 décembre 1962, il fut celui qui confirma l'appel divin que j'avais reçu du Seigneur en présence de deux témoins, les frères Fred Sotman et Banks Wood. Mon ministère est directement connecté à son ministère en accord avec le plan du salut. Frère Branham a fait à maintes reprises cette déclaration, « Aucun homme n'a le droit de monter en chair et de prêcher à moins d'avoir rencontré Dieu, et d'avoir fait cette expérience surnaturelle comme Moïse. Je dois ajouter à cela, aucun homme n'a le droit de prétendre avoir été appelé à un ministère lié au plan du salut, à moins de justifier avoir fait une expérience comme l'apôtre Paul, qui avait entendu la voix du Seigneur ressuscité, comme moi je l'ai entendu le 2 avril 1962. Ce que notre Seigneur a dit de ceux qui l'envoient demeure vrai pour toute l'éternité. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10. 16. Désormais, chacun doit personnellement décider s'il va croire, ou pas, s'il va obéir ou non. Chacun devra encore faire face à sa décision en ce jour-là, lorsqu'il faudra se placer à gauche ou à droite, quand nous entendrons ces paroles. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Ou « Retirez-vous de moi, maudit. » Les deux cas seront sans appel. Épilogue. Maintenant, nous pouvons laisser derrière nous tout ce qui est du passé et oublier, pour autant que cela ait été apporté sous le sang, et que nous ayons obtenu le pardon. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons avancer dans l'unité, croyant pleinement que Dieu aura son chemin avec nous. 1 Pierre 1, 13. Le Seigneur qui ne ment point achèvera son œuvre de la rédemption, de la même manière qu'il acheva son œuvre de la création. William Branham fut l'homme envoyé de Dieu, et par son ministère, les cœurs des enfants de Dieu furent ramenés à la foi des pères apostoliques du commencement. D'abord, cela fut une promesse. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Ce qui fut dit à frère Branham demeure vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, mais le message, qui lui a été donné, qui précédera la seconde venue de Christ, tel qu'il l'a souvent répété, et particulièrement le 9 février 1959. Ce n'est pas moi qui serai le précurseur. Mais le message sera le précurseur. Cela n'était jusqu'alors qu'une annonce du 11 juin 1933, mais depuis le départ de frère Branham, cela est devenu une réalité dans le monde entier. Le 26 juillet 1964, frère Branham posa cette question, et répondit lui-même pendant sa prédication, « Restaurer quoi ? Dans ces derniers jours. Vous frères des assemblées chrétiennes, écoutez. Restaurez la fête originale de la Pentecôte, comme ce fut au commencement. À la fin, l'Église doit être, comme elle était au commencement. Nous lisons dans le livre de Job qu'il lui fut accordé la double restitution de toutes choses lorsqu'il pria pour ses amis qui ne l'avaient pas compris durant son épreuve. En ce qui me concerne, je dois également agir de la même manière, et nous devons tous agir de cette manière. De tout mon cœur, je peux prier, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et ils ne le savent pas aussi longtemps qu'ils sont sous l'influence du malin. Que cela puisse se réaliser, comme il en fut avec Job. Que tous les frères et sœurs, tous les anciens amis, reviennent, et se réjouissent avec nous. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job, vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs. Job 42, 10 et 11. Nous ne devons pas avoir de rancune entre nous. Et nous ne devons pas nous plaindre les uns des autres, comme Jacques l'a écrit. Bien au contraire, nous devons suivre l'exemple de la patience dans la souffrance des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous voulons demeurer fermes, et nous efforcer à être trouvés dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous accorde à tous le respect envers lui, sa parole, et ses décisions. Car c'est seulement de cette façon que nous pouvons prendre part à ce qu'il est en train de faire maintenant. Puisse le bon plaisir de Dieu reposer sur son peuple. Satan ne peut pas empêcher la réalisation du plan de Dieu. Ce que Dieu a résolu de faire depuis l'éternité s'accomplira certainement au temps marqué, et par sa grâce, nous verrons l'achèvement final dans le saint nom de Jésus. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les frères qui dans plusieurs pays demeurent fidèles dans la parole et dans le message, et qui participent à la distribution de la nourriture spirituelle. Shalom. Maranatha. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. Ainsi dit le Seigneur dans les Béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui. Amen. Matthieu 5, 8 à 12.